La page d'évangile que nous voulons, j'imagine Jésus avec les traits du professeur Tournesol. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le professeur Tournesol, qui, lorsqu'on l'interroge sur la fiabilité de ses inventions, peut vous répondre qu'il risque de pleuvoir ou bien qu'il n'a jamais eu de sœur. Sauf que Jésus n'est pas sourd et qu'il est pleinement attentif à ses interlocuteurs. Alors, pourquoi évoquer le vénérable Tryphon Tournesol ? Bonne question. Je m'explique. Des Grecs veulent voir Jésus. Il s'agit probablement de sympathisants du judaïsme issus des nations païennes, montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque, comme doit le faire tout juif. Voilà qu'ils entendent parler d'un homme qui a ramené un autre homme à la vie. Lazare est sorti de son tombeau et la foule ne parle plus que de cela dans toute la ville. Celui par qui le miracle est arrivé serait le Fils de Dieu, le Messie. Le désir de ces quelques Grecs est-il donc motivé par une simple curiosité devant un phénomène peu commun ? Ou bien s'agit-il déjà des prémices de la foi ? Nous le savons, dans l'Évangile selon saint Jean, voir, c'est croire. Il y a donc fort à parier que les Grecs en question, qui veulent voir Jésus, se posent des questions fondamentales et qu'ils souhaitent pouvoir y répondre en rencontrant celui-ci. Ils présentent leur requête à Philippe, qui s'adresse lui-même à André, les prénoms aux consonances grecques de ses disciples. Vous savez que Philippe, c'est l'ami de chevaux. André, c'est l'homme, le mâle, avec un accent circonflexe L-E. Donc, ces prénoms indiquent une affinité culturelle avec les demandeurs. Et surtout, notons qu'André est sans doute à l'origine de l'appel de Philippe par Jésus. Je vous renvoie au début de l'Évangile selon saint Jean. Donc, des Grecs, Philippe, André, Jésus, nous remontons la chaîne de transmission de l'Évangile. Alors, me direz-vous, quel est le problème ? Ne trouvez-vous pas étrange la réponse apportée par Jésus à la demande des Grecs ? À des croyants qui souhaitent le voir, Jésus répond par un développement théologique très très dense, assorti d'une parole inouïe du Père. Avouez qu'on peut faire plus simple en matière de réponse à une demande de rendez-vous. Ainsi, Jésus ne donne aucune indication directe à transmettre aux Grecs. Non parce qu'il aurait quelques problèmes d'audition ou qu'il serait distrait, mais parce qu'il indique de manière détournée à ceux qui veulent le voir le moment opportun pour le faire et ce que cela impliquera pour eux. Tout d'abord, Jésus répond que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Or, pour nos oreilles sensibles à certains mots-clés de la Bible, la gloire est associée à la manifestation de la puissance de Dieu, comme le laisse entendre d'ailleurs Jésus lui-même à Marthe avant la réanimation de Lazare. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Encore plus concrètement, la gloire prend l'apparence d'un rayonnement fulgurant, comme au temps du don de la loi sur le mont Sinaï, ou, de manière plus évidente encore, à la transfiguration. Rappelez-vous ce vêtement de Jésus plus blanc que blanc. C'est ça, la gloire. Et dans notre monde, la gloire va de pair avec la puissance, celle des grands patrons du numérique, des sportifs de haut niveau dépassant leurs limites, ou bien des artistes devenus des icônes planétaires. Peut-être Jésus évoque-t-il sa résurrection d'entre les morts quand il dit que le Fils de l'homme doit être glorifié. Fait-il déjà entrevoir aux Grecs le matin de Pâques et le tombeau vide, signe de sa victoire sur la mort ? La voix qui vient du ciel nous fait penser à celle qu'entendent Pierre, Jacques et Jean sur la montagne où Jésus est transfiguré devant eux, comme le rapportent les évangiles synoptiques. Nous l'avons entendu il y a quelques semaines. Or, Jésus nous parle d'une autre gloire. En effet, il évoque deux mouvements contradictoires pour dire la même réalité déroutante. Premièrement, il utilise une parabole pour rappeler que toute fécondité est précédée d'une forme de mort à soi-même, symbolique, mais aussi parfois bien réelle. La preuve. Ainsi, le grain doit être jeté en terre et mourir pour donner du fruit. Nombre de disciples du Christ ont illustré ce principe dans leur vie. Et vous avez sans doute des figures en tête, de disciples du Christ, saints connus ou méconnus, qui ont été des grains de blé jetés en terre et qui ont porté beaucoup de fruits. Et Jésus nous fait comprendre que nous ne pouvons pas nous en exonérer nous-mêmes. Se dessaisir de sa vie est la condition sine qua non pour ne pas mourir, au sens fort du terme. Sommes-nous prêts à nous dessaisir de notre vie? Sommes-nous prêts à faire confiance au Seigneur? À mourir à nos égoïsmes, à nos peurs, à nos haines peut-être, à nos jalousies, à nos mensonges? Sommes-nous prêts à cela pour que le Christ fasse de nous, eh bien, des hommes et des femmes féconds? Deuxièmement, Jésus fait allusion au passage du livre des Nombres déjà cité dans la discussion avec Nicodème. Nous l'avons entendu dimanche dernier, rappelez-vous. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus doit mourir sur la croix afin qu'en lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Jeté en terre ou élevé sur le bois de la croix, il s'agit bien de perdre sa vie pour que d'autres la gagnent, et peut-être même pour la gagner soi-même. Nous pouvons comprendre que l'âme de Jésus en soit bouleversée. Obéissant au dessein d'amour du Père, le Fils nous aime jusqu'au bout, jusqu'à souffrir dans son humanité, jusqu'à mourir pour nous. Gloire paradoxale de Dieu qui prend le visage de l'innocent défiguré par la violence des hommes. Oui, gloire bien paradoxale. C'est tout cela que Jésus annonce déjà et qui manifestera la gloire de son Père et la sienne. Alors, dans tout cela, la réponse à faire aux Grecs. Eh bien, en vivant sa Pâque, le Christ attirera à lui tous les hommes, y compris les Grecs qui veulent le voir. Ainsi, l'heure de la croix devient l'heure où la vie triomphe de la mort, où s'accomplit la loi d'amour. Dieu inscrit cette dernière non plus sur des tablettes de pierre, mais sur la tablette de chair du cœur de Jésus, pour qu'elle soit inscrite sur la tablette de chair de nos cœurs. Et du cœur transpercé du Christ jaillit une source de vie éternelle. Nous aussi, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, il nous reste quelques jours pour préparer notre propre cœur et demander au Seigneur d'y inscrire sa loi d'amour. Il nous suffit juste de croire à l'inouï du mystère pascal, ce mystère de passion et de résurrection. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.